monter vos propres actions, si vous avez besoin, voilà, on vous disait comment durer sur le long terme, discutons. Voilà, on peut trouver des solutions, on est là pour ça. Et voilà, pour tout ce qui a à voir avec l'eau, un peu de nation.
Là, nous reste une demi-heure. Si vous voulez continuer et finir de débattre. Oui, une question ?
L'intervention. Grève des factures. Moi, je voudrais parler de la grève des facteurs. Parce que madame parlait tout à l'heure du fait que dans les écoles, ils appliquent petit à petit, pas en même temps partout, les réformes, les contre-réformes, etc. À la poste, il y a la même chose. Chaque bureau de poste est appelé à avoir une réduction du nombre des facteurs. Ils appellent ça facteur d'avenir. Évidemment, il faut positiver. Et dans le 92, c'est une épreuve de force parce qu'il y a pas mal de militants postiers qui s'opposent à ça. Et demain, au tribunal de grande instance de Nanterre, il y a un procès de 16 postiers des Hauts-de-Seine qui sont convoqués pour avoir séquestré lundi 20, début du procès qui va s'échelonner sur une bonne semaine. Mais lundi, ça sera donc un temps fort, déjà le matin à 8h pour l'ouverture du procès, mais surtout, pour ceux qui peuvent, bien entendu, à 13h, il y aura un rassemblement donc devant la TGI de Nanterre, c'est la préfecture, c'est même pas des maisons, et il y aura des pointures, pour ceux qui n'ont pas vu de près les personnalités, les candidats, les anciens candidats, les directeurs, les présidents, secrétaires généraux de parti, il y aura tout ce qu'il faut. Vous aurez au moins 3 candidats. Les prochaines présidentielles. Enfin, c'est pas ça, à mon avis, qui est le plus intéressant, évidemment, c'est de soutenir ces postiers, qui sont donc 16, et qui sont menacés de 50 prisons. Alors, leur action est intermédiaire entre les actions classiques de syndicalistes et puis les actions un petit peu plus dynamiques qui viennent d'être évoquées là. La séquestration, en fait, c'était pas une séquestration, ça c'est un prétexte pour essayer de casser les reins aux syndicalistes les plus militants de la poste dans le 92, mais ils ont fait pas mal d'actions assez spectaculaires. Mais celle-là, bon, vu que c'était la direction départementale et qu'ils occupaient les lieux tout en laissant les directeurs et les employés aller venir, mais la direction prétexte qu'ils étaient séquestrés, qu'ils ne pouvaient plus sortir, plus communiquer, et c'est passible de 50 prisons dans le cas le plus extrême. Donc je pense que ce serait bien d'aller les soutenir, éventuellement avec s'il y a la possibilité de faire des actions plus originales que le simple manifestation en rassemblement devant la préfecture, ce serait que mieux, c'est peut-être un peu court pour l'organiser, enfin à moins que certains l'aient déjà organisé, ça je ne sais pas. Enfin, là je vous invite tous à venir lundi 20 à 13h, le matin si possible, mais à 13h, là où il y aura toutes les personnalités et donc tous les médias. Les médias seront là quand il y a plusieurs candidats à la présidence quelque part, mais évidemment les médias sont là.
Très bien, une autre intervention ? Oui ?
Une question un peu absurde que je me pose, excusez-moi. Mais alors, on veut déprivatiser l'eau. On veut déprivatiser la poste. Etc. Bon, je suis bien d'accord, mais on ne veut pas renationaliser parce qu'on ne veut pas d'État. Alors je me demande qu'est-ce qu'on veut faire réellement.
Oh, alors là, vraiment, vraiment la question de privatisation de l'eau n'a rien à voir avec le besoin du mouvement national. C'est l'argument du PC et qui m'énerve beaucoup. En fait, le PC aujourd'hui n'est vote pas pour l'eau publique au niveau local, ils ont le pouvoir de le faire, ils ont le pouvoir de faire des changements importants, ils ont le pouvoir de vous rendre une eau publique moins chère, de meilleure qualité, ils ne le font pas, sous prétexte que non, on attend la loi au niveau national. Et ça, il n'y a aucun besoin d'en arriver là pour agir aujourd'hui et maintenant sur les contrats sur lesquels ils vont
prendre la décision. On le fait déjà.
Et la gestion publique municipale.
Exactement.
Le conseil général,
mais bien sûr,
c'est aussi.
Oui, municipalité. On n'a pas besoin de
national. C'était comme un peu à Paris. La CFR.
Forme de gestion.
Votre intervention.
Ici.
Moi, j'ai une remarque dans ce qu'a dit Stéphania. Il y a quelque chose de comment dire très encourageant. Lorsque quelques personnes décident de passer les formes, parce que sont plus convaincus. Les autres, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont appris à la dépasser, parce qu'ils sont conscients de leurs droits, d'autres regardent et ils sont dans un moment qui peut prendre toute une vie pour les gens, et qui, parce que là, ils ont un moment où c'est devant eux, et bien, en 5 minutes, ils font ce travail de se dire, est-ce que c'est légitime, est-ce que ce n'est pas légitime, est-ce que je dois le faire, qu'est-ce que je risque, et tout ça, ce qui vous anime tous d'ailleurs dans les luttes, le fait d'être dans l'action, ça amène ça. C'est-à-dire que réfléchir, c'est très bien, et aller sur les concepts, c'est une très bonne chose, mais on réfléchit différemment dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ça, mais l'action peut amener à une réflexion qui va très très loin ensuite, parce qu'ils vont revenir, ils vont essayer de faire un débriefing, bah, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que... Ils vont essayer de comprendre pourquoi ils l'ont fait, et c'est pas seulement du bougisme, c'est pas seulement du mouvementisme. Il y a quelque chose qui procède de l'intelligence. Et il y a une deuxième chose, c'est il y a un questionnement qui n'a pas été préparé, c'est la légitimité d'interrompre un vote. Le vote, c'est la démocratie, donc si on interrompt un vote, on est contre la démocratie. Donc déjà, il faut une formation sur ce que c'est la démocratie. Le vote est une des modalités de la démocratie. La représentation est une des modalités possibles. Voilà. Donc déjà, il faut un vrai travail là-dessus. Et deuxièmement, il faut un travail, c'est souvent fait hein, chez les obéissants, entre légitimité et légalité. Ce qui est légitime, et c'est exactement ce que disait Albert, c'est ça, c'est qu'on fait un travail sur, on demande un droit supérieur, on invoque quelque chose de supérieur à ce qui est. Et donc, souvent, on présente, et ça, les médias travaillent dessus, et je pense qu'il y a un grand piège dans les mouvements d'activisme dits nouveaux militants, et certaines fois utilisant des méthodes dites de désobéissance civile, c'est le piège de se laisser enfermer dans quelque chose d'uniquement drôle et rigolo. C'est indispensable de drôle et rigolo pour avancer, c'est un moteur phénoménal, mais il faut qu'on explique qu'on est capable d'avoir une vision cohérente et une stratégie à long terme. Et voilà. Et donc tout ça, à mon avis, c'est ce qui permettra d'arriver de la désobéissance comme test, comme essai, comme modalité complémentaire, à une désobéissance massive pour que les gens se réimpliquent et utilisent comme un mouvement de force, comme ça a été fait en Italie, pour pouvoir déboucher sur un référendum.
Moi, je
peux quand même rajouter une chose, parce qu'en Italie, ils sont parvenus à déboucher sur un référendum, que pour autant, il va y avoir des formations politiques qui vont rester unies, ou qui vont devenir unies, qui vont être d'accord sur une convergence ou un programme minimal de gouvernement, pour ensuite se présenter devant les électeurs, et puis vaincre Berlusconi, et surtout durer dans l'activité ministérielle. Parce que s'ils sont d'accord, mais qu'au bout de 3 semaines, ils font comme si c'était passé précédemment, avant le premier gouvernement vers le gouvernement, ensuite ça part dans tous les sens, que ça s'éniaise, un gouvernement pléthorique, comme dans beaucoup de cas dans le monde, malheureusement, pour un gouvernement d'alliance, et que ça part, comme on dit, excusez-moi, en eau de boudin, hein, bah, je dis, c'est quand même pas bien récompensé tout ça.
On s'en fout, tu dégages.
Il faut quand même bâtir.
Bah, on peut bâtir.
Oui, l'un n'empêche pas l'autre.
De toute façon, les gens, ils sont contraints de prendre cette donnée et de faire de leur mieux. Avant, il n'y avait pas de contrat de le faire. Ah ben bien sûr que oui.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, bon, les citoyens, leur cerveau a été colonisé pendant 40 ans. Donc ils sont devenus addicts à la consommation. Ils sont aussi devenus apeurés, c'est-à-dire toute transgression de ce qui peut paraître un interdit démocratique faisait peur. Et cette stratégie de désobéissance civique, eh bien, est justement une tentative pour sortir de cette colonisation des esprits. Mais moi, je voudrais poser la question à Benjamin. Dans les manifestations, par exemple, j'étais à Copenhague il y a 2 ans, des éléments importants de ces manifestations, c'était les Black Blocs, c'est-à-dire ces personnes qui viennent pour tout casser. Donc, dans le mouvement, tant en Espagne qu'à Paris, comment vous gérez l'énergie de ces jeunes gens? Parce que tout ça, c'est bien une question d'énergie. Je crois que les citoyens combatifs, ils avaient perdu toute l'énergie. Et pour lutter, il faut retrouver l'énergie. Alors, il faut soit la placer dans la violence, comme les Black Blocs, soit la placer dans le mouvement dont on parle. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec ceux qui sont pour la violence?
Je suis sûr que Stéphania pourra...
Oui, c'est la question aussi s'adresse à elle.
Mais là-dessus, il y a 3 stratégies. La première, c'est de dire, vous êtes que des cons, de toute façon, dégagez. Et là, je pense que c'est... faut pas agir comme ça, c'est mal, etc. Et je pense que c'est pas une bonne stratégie, de se les mettre à dos. La deuxième stratégie qu'on peut opérer, c'est celle d'essayer de massifier le mouvement avec des gens qui ne sont pas comme ça, et qui vont, eux, au lieu de faire un black bloc qui dit « oui, mais moi, je suis là pour vous protéger », et bien, il y a des gens, comme les clowns, qui vont se mettre devant. Ils vont mettre des peintures sur les CRS et ils vont faire donc un espèce de barrage. Parce qu'on fait un service d'ordre, ou un service de sérénité, ou un service de paix, ce qu'on veut. On fait un service de désobéissants qui vont venir et qui vont dire « nous, on est non-violents » et ils vont s'interposer. Et la troisième stratégie, et moi je pense que c'est la plus fondamentale, c'est de regarder et d'essayer de trouver qu'est-ce qui les motive à faire ça. Et quand on a trouvé ce qui les motive à faire ça, il y a un exemple que je raconte souvent, et à mon avis ça s'apparente un peu à ce que au niveau des Black Blocs, il y a une nécessité de transgression et de revanche et d'exprimer une rage. Au Muro, il y a 4 ans, il y a eu quelqu'un qui est tombé dans le coma suite à une interpellation, et donc le père de la personne interpellée est tombé dans le coma parce qu'elle s'est faite très violemment bousculer par les forces de l'ordre. Évidemment, c'est les muraux, c'est compliqué, ça va être l'émeute le lendemain. Donc la gauche locale organise une petite manifestation pour dire c'est pas bien les violences policières. Et on sentait que ça couvait tous les gamins de 12 ans, 13, 14, 15, jusqu'à 18 ans. Il y en a peu qui sont majeurs en fait. Disent on va prendre des parpaings et puis on va leur caillasser la tête, etc. Après la manif, on n'a rien à faire, on va les démonter. Et on est arrivé à quelques-uns et on a dit on a une proposition à vous faire. Est-ce que vous avez envie de prendre une revanche sur la police? Oui. D'accord. Et il ne faut pas nier ça. Est-ce que vous avez envie de pouvoir vous exprimer? Oui. On leur a dit, écoutez, on va vous offrir une possibilité. Laissez-nous une chance. Et on est allé avec une trentaine de jeunes qui habituellement passent leur nuit à caillasser des CRS ou à brûler un truc pour que les pompiers viennent, caillasser les pompiers pour que les CRS viennent pour pouvoir ensuite les caillasser. Donc c'est des stratégies qu'ils mettent en œuvre. On leur a dit, pas un crachat, pas une insulte, pas un mot au-dessus de l'autre, et vous essayez de suivre l'exemple des 4-5 qu'on est là à vous montrer ce qu'on va faire. On a occupé la cour du commissariat. Ils nous ont regardé en disant « mais c'est pas possible, on n'arrivera jamais à occuper cette cour, etc. » On a fait quelque chose de plus fort et plus transgressif que ce qu'ils étaient capables. Et les Black Blocs, eh bien, si on leur montre qu'on est capable, par exemple, de tenir une place à Barcelone de manière non-violente, eh bien, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils peuvent dire qu'à 1000 qui tapent, ils sont plus efficaces. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que 10 000 qui sont non violents et déterminés sont beaucoup plus forts. Et en plus, on peut amener tout le monde à être sympathisant avec nous. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une utilité. Je pense qu'il faut les responsabiliser. Là, c'est une dernière stratégie qu'il y a à mettre en œuvre. On l'a fait pendant le Sarkozy Day. Il y avait des gens qui venaient pour tout casser. Des gens des banlieues, des punks, des anards machins, des trucs, des flics en civil et tout ça. Bon, à part les flics en civil, on a réussi à convaincre les autres. On leur a dit, vous allez être notre service d'ordre pour que ça se passe bien. On les a responsabilisés. Ils étaient coincés, ils venaient pour tout casser. Et finalement, ils se retrouvaient avec un brassard blanc en train de faire en sorte qu'il faut que ça se passe bien. Et voilà, et donc ces stratégies-là, c'est qu'il faut essayer d'anticiper et d'être à l'intérieur.
Une intervention.
Oui, moi, c'est à la fois une question, une intervention et une question, aussi éventuellement une recommandation. Alors, depuis que je suis ici, j'entends parler d'État, j'entends parler de démocratie. Tout à l'heure, l'État ne devait pas être protecteur, il devait être l'un des maillons centrales de la démocratie, mais j'ai toujours l'impression que cet État, cette démocratie, elle est toujours un peu Deus ex machina. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, et on ne sait pas du tout si derrière cet État et cette démocratie, il n'y a pas aussi des rapports conflictuels, et des rapports de classe, voire même des rapports, enfin, je n'irai pas au point de citer des rapports de classe, parce que j'ai peur d'avoir un petit peu peur, mais au moins des conflits interclasses sociales, et bien sûr, maintenant, je ne sais pas ces mots, je le pose, y compris aussi de classe. Donc, moi, je trouve que la manière dont j'ai entendu parler jusqu'à présent l'État, pour moi, l'État, c'est, je cite, j'aime bien cette citation d'Engels, c'est le capital politique en idée. Derrière ça, donc, il y a quelque chose de conflictuel. Donc, j'aurais voulu savoir, vous, par rapport à ça, où vous situez et comment vous situez. Autre donc l'intervention, puis en même temps une intervention, mais aussi une recommandation. Je vois dans votre bibliographie citée ici, là, je vois différents ouvrages qui me semblent être pertinents et très bons. Je vois aussi la servitude volontaire, Étienne de la Boétie, tout le monde le connaît, cet ouvrage-là. Je rappelle tout de même que l'un des premiers qui a relancé la Boétie chez nous en France, c'est Maximilien Rubel, qui l'a sorti aux œuvres chez Puf dans la collection critique. Et sa préface, justement, est excellente. Donc, je recommande aussi dans vos bibliographies, vous mettez aussi Maximilien Rubel, d'une part parce que historiquement, c'est lui qui l'a sorti en France, qui l'a ressorti en France, et d'autre part parce que Maximilien Rubel, c'est lui qui a noté Le Capital et tous les autres de Marx à la gueule de la Payenne, on ne peut pas dire qu'elle soit la gueule de la Payenne, soit le Parti communiste. Donc, c'est d'avoir ce lot qui soit quand même un minimum, un tant soit peu, comment dire, intelligent et intelligible. Et si il a fait le choix de reprendre la servitude volontaire de la Boétie, de le remettre comme ça à disposition du public, c'est qu'il y a des raisons.
Une réponse à la première question.
Je vais tenter de répondre. Il y a deux manières de répondre. La première, c'est de dire les classes, on s'en fout, on est un partisan, votre idéologie, vous pouvez la mettre où je pense. Et la deuxième, c'est d'essayer de regarder comment est-ce qu'on peut faire converger cette idée-là, qu'il y a des gens qui ont envie de se mobiliser de manière apartisane, sans étiquette, peut-être des fois même antipartisane, ce qui est un peu gênant, et comment est-ce qu'on peut concilier les rapports de lutte de classe qui sont évidents. Voilà. Il y a quelqu'un qui a fait le boulot à notre place il y a quelques années. Moi, je pense que Jaurès a fait une très bonne synthèse de ça. Et il n'y a pas de position entre les travailleurs et la notion de citoyenneté. Il n'y a pas d'opposition. Au contraire, on peut quasiment considérer que c'est la même chose. Voilà. Et à partir du moment où on est là, il y a bien des gens qui ont envie d'avoir un souci démocratique, donc c'est le peuple, et il y a des gens qui les empêchent, donc on va dire c'est l'État, c'est des agents politiques, Y, Z, puissance économique, financière, capitaliste ou autre. Voilà. Et il y a des gens qui se font bouffer, qui se font exploiter, et des gens qui exploitent. Et on voit que c'est les mêmes, puisque les convergences entre l'oligarchie financière et l'oligarchie élitiste, c'est la même chose. Et donc, clairement, la mobilisation se fait comme ça. Ça ne se passe pas, là je le dis de manière argumentée, avec un petit peu de concept et tout, mais quand on est sur la place, Cécile peut en témoigner, les débats sont assez houleux, en AG, avec les gens qui ont des idées politiques à essayer d'imposer, etc., et puis d'autres qui disent « non, on est un partisan, tout ça ». Et bien, on voit que si on laisse faire ce mouvement de réappropriation collective, de fait, la convergence des luttes s'opère. Et on est dans un rapport de solidarité de tous les travailleurs et de tous les opprimés, parce que maintenant il y a précarité, etc.
Et également, on est dans un rapport où on dit ce n'est pas ça qui est central. Ce qui est central, c'est qu'on puisse élaborer collectivement, et dans l'élaboration collective, tout viendra. Tout. Y compris, bien sûr, le fait de prendre le dernier des mots.
Non, ça c'est pas.
Non, c'est pas vrai, je dis ça pour rire.
Non, ça c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Je veux juste dire un petit mot à ce sujet. Puisque je me suis servi du terme État, donc il va de soi pour moi que, que les classes sociales existent, qu'il y a des antagonismes, des conflits. Le médiateur, à quoi sert la notion de classe? Ça sert à créer une avant-garde du prolétariat, dont les partis d'organiser des syndicats qui, armés de la théorie de la lutte des classes, vont pouvoir conscientiser le peuple pour lui faire voir ses intérêts réels et arriver à armer une lutte contre les gens qui les exploitent, la bourgeoisie. Bon, tout ça doit être plutôt juste. La question, c'est que le monde avance, change, se modifie, que le capitalisme se modifie, change. Donc la structure même des luttes de classe se modifie, s'altère. La lutte de classe elle-même a produit des pratiques démocratiques. Il ne faut pas négliger le monde dans lequel on est. C'est-à-dire, il est possible que nous revenions en Europe, dans les 15 ans qui viennent, à un état d'avant 1880, sans école, sans vote, sans. Enfin, bon, dans un état de. C'est pas impossible. Par exemple, pour la Grèce, si demain elle fait faillite. Par tous les cas, bon, il n'est pas impossible, l'histoire est pleine d'aventures intéressantes. Mais pour l'instant, le concept de lutte de classe lui-même, il y a une description d'une société qui est divisée en classes avec des intérêts antagonistes, ça c'est une description, et puis ce que Marx a fait, c'est de cette description faire une arme de combat. Cette arme de combat, elle a servi à démocratiser les sociétés. C'est-à-dire que les acquis, ce qu'on appelle les acquis sociaux, c'est un résultat des luttes de classe organisées par des partis qui se revendiquaient de cette notion-là, qui gagnaient des droits sociaux et politiques pour les citoyens. Et c'est à peu près l'état dans lequel on est aujourd'hui. Donc le monde a un petit peu changé, et la dureté des rapports de classe qu'il y avait au début du siècle, enfin, il y a deux siècles maintenant, on peut accepter l'idée que ça s'est un peu altéré. Donc il y a effectivement, d'une part, il y a un combat qui s'est un petit peu autonomisé pour la démocratie, pour le droit des citoyens, le droit individuel des citoyens. Et donc ça, c'est l'école, la santé, toutes sortes de choses, accéder aux nets, la Wi-Fi, je ne sais pas si Karl Marx aurait pensé que c'était un truc où on entretenait le capital en pillant des sommes folles aux opérations d'électrophonie privée. Mais, je ne sais pas, mais vous voyez, le monde a un petit peu changé. Donc, que la société, dans sa structure, soit divisée en interantagonistes, ça, moi, je pense que c'est de tout temps. La description vaut pour tout temps. Je pense qu'il y aura toujours des exploiteurs, toujours des propriétés. Je n'arrive pas. Alors, Marx était sympathique. Il a dit qu'un jour, ça s'arrêtera. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que c'est une idée qui a disparu. Enfin, moi, ça me frappe beaucoup dans les mouvements qui sont pacifiques, sans parti, sans violence. C'est qu'ils ne veulent pas prendre les bourgeois. Et je crois que sans prendre un ou deux bourgeois, on n'arrive pas à faire du bon travail. C'est-à-dire, quand il a dit, Benjamin, on va prendre les bourgeois, non, on ne veut pas le prendre. Et je crois que c'est un problème. C'est-à-dire que si on n'a pas comme. Alors, je sais que ça choque, mais j'aime
bien la provocation
que je fais, concernant à la fois l'absence de guerre, on est des sociétés extrêmement pacifiées, et nous avons peur de la violence.
Oui.
La violence est une chose, et c'est une chose bon, qui m'intéresse dans ces mouvements-là. Je ne vois pas comment on peut faire de la politique de façon non violente. Alors je suis ça, je trouve ça intéressant, ce que Benjamin dit, moi, ça me convainc énormément, mais je suis un de la vieille école, et je pense que la politique, c'est qu'on n'heurte pas des intérêts aussi puissants sans violence. C'est un peu ce que les désobéissants ont compris,
et oui.
D'une certaine manière. Le problème, c'est qu'il faut qu'effectivement, ça soit à un niveau beaucoup supérieur, qui n'est pas le niveau que les mouvements de masse qu'on voit actuellement atteignent. Alors, pour vous dire le fond de ma pensée, je ne sais pas si c'est enregistré, si je serais visé demain.
Si.
Simplement, la seule chose, c'est que le mouvement historique dans lequel on est actuellement, c'est, là on rejoint Marx, c'est un mouvement d'appauvrissement constant des populations, et qu'à un certain moment, la seule chose qu'on peut attendre, c'est dans 10-15 ans, le degré de pauvreté dans lequel on sera tellement grave
de toute façon, les mouvements de révolte essaieront de brûler les bourgeois.
Avant 10 ou 15 ans.
Avant 10 ou 15 ans.
Ah oui.
Non, je pense pas, il faut regarder la baisse des retraites, donc ça va être étagé. Donc la baisse des retraites, donc les vieux vont devenir extrêmement pauvres.
On ne sait plus ce que c'est que.
Non, ça va vite.
Et les jeunes n'auront pas d'emploi, donc il y a un effet de ciseau assez grand. Bon, on peut donner 10 ans, c'est-à-dire qu'ils vont tirer un peu la corde, tout ça.
Ça tiendra bien.
Sauf s'il y a, par hasard, c'est ça. Donc, dans le train, comme on dit, dans lequel on est aujourd'hui, on peut, pour ceux qui sont désespérés, on peut juste compter sur ce que font les gouvernements actuels, c'est-à-dire un appauvrissement constant. Soit les populations tomberont dans l'apathie, soit elles se boufferont les uns les autres, soit simplement elles seront dans un désespoir tel qu'il y aura une mobilisation. Et c'est là où le problème est réglé. Quand je disais pour la question de l'État, je pense qu'il y a beaucoup de gens, je pense que Benjamin sera d'accord, je suis moins militant que lui, j'adore tout ce qu'il dit. La balance, c'est de savoir est-ce que des mouvements basés sur la pauvreté et le désespoir des gens vont plutôt vers le fascisme ou plutôt vers la révolution. Et je pense que beaucoup de gens, donc, comme tu disais pour Stéphane Hessel, pensent, parce que c'est peut-être des vieux, de la vieille école qui ne comprennent rien, donc je suis plutôt dans ton train d'optimiste, là, de dire, avançons, on verra, n'ayons pas peur. Je pense que beaucoup de gens, oui, non, mais je pense qu'il y a cette crainte dans le personnel politique est assez répandu. Ils savent qu'on va vers un grand appauvrissement des populations. Et la crainte, c'est qu'effectivement, c'est la personne droite qui rafle la mise. Parce que, historiquement, c'est toujours l'extrême droite qui a raflé la mise. Et c'est pour ça que je dis, faites attention quand vous maniez le terme de l'État protecteur. Il faut qu'il y ait un État, mais qu'il soit sur-démocratique encore. C'est qu'il soit vraiment quelque chose qui est aux mains des citoyens. Il faut qu'il y ait un État, mais il ne faut pas... Enfin, je vois, moi j'ai cette crainte-là, donc je ne suis pas comme Stéphane Hessel, je suis un peu plus jeune, comme vous avez remarqué. Néanmoins, je pense que, effectivement, historiquement, l'extrême droite se prépare à ça. L'extrême droite au niveau européen est organisée et se prépare à ça, et pense que son heure va venir et qu'ils vont rafler la mise du populisme et sur la base de la précarité et de la pauvreté. D'accord. Je pense que beaucoup de gens pensent que c'est une inclination historique à peu près inéluctable, donc ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Et quand on m'a mis à gauche l'idée d'État protecteur, moi ça me fait peur, parce que je pense que, comme on dit toujours, on préfère l'original à la copie, et l'État protecteur, c'est toujours les régimes fascistes qui ont profité. C'est-à-dire, on va vous protéger, abandonner votre liberté, laissez-la nous entre nos mains, c'est le principe du fourreur en général. Donc ça, je dis, essayons d'avoir une théorie de la démocratie, de l'État qui soit beaucoup plus démocratique, c'est-à-dire où les contre-pouvoirs laissaient la société civile sont de plus en plus importants. Donc de ce point de vue-là, je pense que ces mouvements contribuent à ça. Mais essayons de ne pas tomber dans ce truc, parce que l'appel des appels se servait de ça, en disant il faut que l'État redevienne protecteur, hein, ce qu'on veut, c'est l'État protecteur. Et moi, je parle avec Boris, je lui dis, c'est, pour moi, ça m'effraie. Il ne faut pas faire penser que l'État doit nous protéger. On est des citoyens, on est adultes, on n'a pas besoin de la protection de l'État, on a juste besoin de nos droits politiques et sociaux, et on en a besoin d'encore plus.
Bonne maman.
Mais moi, je ne suis pas de cet avis, parce que si on doit en juger à travers les mouvements qui se passent aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique du Nord, que qu'en Espagne, ce ne sont pas des mouvements qui vont vers la droite, ce sont des mouvements qui demandent la démocratie. Donc les gens, à mon avis, ne sont pas prêts à accepter le fascisme.
La question, elle est pas immédiatement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. La question, c'est si on se projette à une dizaine d'années et qu'on fait l'hypothèse d'un appauvrissement considérable des populations. C'est, vous voyez, là, actuellement, j'aime bien dire ça aussi à mes amis du NPR, on peut taper sur l'État, on peut dire il y a régression, il y a réduction, tout ça, mais on est extrêmement bien populaire.
Pas tout le monde.
Pas tout le monde. On est encore dans ce chiffre d'espoir où les choses, par exemple, on peut dire, vous pouvez souffrir d'être 35 par classe et pas 32. On dit cette chose-là. Raisonnablement, on pourrait accepter ce principe-là s'il n'y avait pas toutes sortes d'autres injustices, d'autres choses qu'on peut contester. On pourrait l'accepter parce que c'est. Par contre, si on vous disait on supprime totalement l'école et allez sur le marché. Recruter vos professeurs, acheter vos locaux, faites tout ça, on supprime l'école. Alors, on supprime la fonction publique. Simplement.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Non, c'est pas ce qu'on fait. Non, c'est pas ce qu'on fait. On réduit. Non, parce qu'un gouvernement de droite peut arriver, prendre une loi en disant suppression de la fonction publique. Et c'est pas ce qu'on fait en France. On réduit. c'est un truc qui est très très mou, c'est un mouvement assez lent, qui n'est pas direct. Et voilà, il faut le dire.
Je pense que c'est un point de conclusion, parce que là on commence à faire le débat sur les tables.
C'est à ce point-là, dans 10 ans, il faut penser la pensée des gens d'aujourd'hui.
Donc, oui, comme je veux juste te dire un truc qui, à mon avis, est un espoir et qu'il faut construire, c'est le mouvement, un mouvement international, il est en train de se mettre en réseau, il est en train de se doter de capacités fonctionnement et de réactivité, de solidarité. À Barcelone, ils se font taper, on est dans toutes les ambassades dans le monde entier, on se fait taper à Paris, ils sont 2000 partout, etc. Et on voit clairement qu'on comprend que le problème n'est pas l'autre, n'est pas l'étranger. Il faut qu'on le fasse, là on le fait en action, et il faut qu'on l'ancre tellement profondément au cœur de l'action et de la solidarité qui se crée, de la structuration un peu informelle qui est mise en place. Il faut qu'on l'intellectualise aussi. On a besoin d'intellectuels pour travailler. Et donc si on arrive à ancrer ça, je pense que l'extrême droite, ils n'auront pas prise. Même si les gouvernements, pour pouvoir tenir, vont les financer, vont provoquer des contre-révolutions, des guerres civiles, etc. Parce qu'ils ont tout intérêt à ce que l'extrême droite monte pour nous taper sur la gueule et pour éviter d'avoir un rapport. Ils se sont toujours arrangés.
Mais bien sûr, ça
remet vers l'histoire. Merci à tous pour le débat sur la désobéissance. Et à la prochaine.